Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer cette fin de journée en notre compagnie. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, c'est Franck avec vous. On se retrouve comme tous les troisièmes mardis de chaque mois pour l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles, dans un nouvel horaire désormais, 18h-19h, soit 15 minutes de plus pour parler d'astronomie et ou d'astronautique. C'est la 197e émission d'À toi les étoiles aujourd'hui, mais c'est aussi la troisième et dernière de la formule de l'été. Et oui, dans deux jours, c'est déjà l'automne. Cette émission a une marraine qui est Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette dernière émission de l'été. Et vous savez, chaque été, l'émission À toi les étoiles se délocalise. Après vous avoir fait découvrir en juillet et en août la station de radioastronomie de Nancy en deux parties, pour ce mois de septembre, je me trouve aujourd'hui en Normandie, plus particulièrement dans le département de l'Eure, à 70 km à l'ouest de la capitale, dans la ville de Vernon. Certains diront « Ah, mais je sais où il est, chez Ariane Group Vernon, là où l'on fabrique les moteurs d'Ariane. » Perdu. Cependant, vous n'étiez pas loin, car je suis juste à côté, sur le site de l'ancien LRBA, qui était le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique. Et depuis près d'un an, on y trouve un observatoire astronomique. Et oui, ma bonne dame, à seulement une heure d'Enghien-les-Bains, je ne pouvais pas passer à côté. Je suis donc ici sur l'ex-site du LRBA, qui a été nommé Campus de l'espace. Et je suis en compagnie de Gaël Musquet, hacker éthique, météorologue et passionné d'astronomie. Gaël Musquet, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir ici à l'observatoire de Vernon. Je disais donc que nous sommes sur l'ancien site du LRBA. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de ce site ?
Alors, historiquement, après la guerre, les militaires français ont voulu valoriser toute l'expertise et savoir-faire en matière de missiles, de propulsion. Et donc, après-guerre, ce laboratoire de recherche balistique et aérodynamique a concentré en fait toute la connaissance ou les savoir-faire de l'armée française en matière de missiles, de technologie spatiale. On est vraiment dans un berceau en fait de la propulsion. Ici, on fabrique encore les moteurs de la fusée Ariane 5 et Future 6. Et en fait, début 2000, ce site a déménagé en Bretagne. Et donc moi, je suis arrivé ici en 2012, même si je savais ce que c'était. Mais c'est vrai que très vite, ce grand lieu du spatial, en tout cas sur le volet militaire, est devenu une zone morte. Elle a perdu plus de 400 des soldats qui ont dû déménager. Ce sont des pavillons vides, des bureaux vides, des ateliers vides qu'il a fallu valoriser. Et la municipalité de Vernon a voulu refaire renaître en fait ce site.
Vous êtes arrivé là avec un projet, comment ça s'est passé ?
En fait, cet observatoire est né vraiment du confinement. Je me suis rendu compte, en fait, avec mes enfants et les enfants du quartier où j'habitais, qui ne savaient pas où ils habitaient. Alors, ils connaissaient l'odonyme, donc ça, il n'y a pas de problème. Le nom de la rue, le numéro, le code postal, le nom de la ville, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, ils ne savaient pas où se levait et où se couchait le soleil. Ils ne savaient pas où était le nord, où était le sud. Et donc du coup, comme on avait que ça à faire, j'ai passé des jours à leur montrer un peu la course des étoiles, la course du soleil, et les petits instruments que j'avais déjà, je les ai installés sur mon balcon et j'ai commencé à leur montrer, même dans un contexte urbain où on peut imaginer qu'à cause de la pollution lumineuse, on ne peut pas observer, en tout cas pas de manière aussi poussée qu'au pic du midi à l'OHP ou dans de gros observatoires chiliens, qu'on était quand même capable de voir des choses. On était quand même capable de comprendre et de savoir où on était grâce à ces astres et de cette course des étoiles, de cette course en fait du soleil tout au long de la journée ou tout au long de la nuit.
Vous avez donc eu l'idée de concrétiser les choses en créant ici un observatoire de Vernon sur le site de l'ancien LRBA.
Tout à fait. En fait, les équipes qui ont avaient en charge de rénover ce site. On a une école d'ingénieurs qui a déménagé ici. On a des entreprises qui se sont installées, voire réinstallées sur le site. M'ont présenté un bâtiment atypique qui hébergeait l'ancien observatoire du LRBA. Et juste à l'avant de ce bâtiment, on avait un petit cagibi d'à peine 20 mètres carrés dans lequel on se situe, qui est une visée stellaire. Qu'est-ce que c'est que cette visée stellaire ? Et en la visitant, je me suis rendu compte à quel point ces bâtiments avaient de la valeur. Alors, j'ai pas encore les moyens de rénover l'observatoire historique, mais déjà cette petite visite stellaire de 20 mètres carrés, avec un massif en marbre de 12 mètres de long qui est ancré dans la colline, 1 mètre de côté, permet de supporter des instruments déjà de belle taille. Et quand on a remis le courant, appuyé sur le bouton ouverture, le toit s'est ouvert.
Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, Gaël Musquet. D'ailleurs, on entend le toit s'ouvrir.
Et là, j'ai dit aux équipes, mais vous vous rendez compte, c'est des astronomes amateurs et professionnels qui ont appris à tuer père et mère pour pouvoir avoir des bâtiments comme ça. Et ils m'ont dit, ben banco, qu'est-ce que tu as comme idée? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc j'ai ramené des petits télescopes que j'avais, j'ai appelé des entreprises locales, j'ai appelé des fournisseurs français, j'ai commandé du matériel, on m'en a offert. On m'en a prêté, on m'en a donné, ou en tout cas j'ai pu en acheter à des prix vraiment très bas ou avec des belles réductions. Et mon employeur m'a dit, ben, écoute, si tu arrives à prouver qu'il y a une viabilité économique, on est prêt à t'accompagner. Et donc la société qui me paye me dit, ben, écoute, on met le paquet, on y va, et voilà, station météo. Des télescopes, des lunettes astronomiques, des montures tropicales. Et comme je suis guadeloupéen, je me suis dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter juste là et que cet observatoire pourrait devenir un vrai prototype, un vrai observatoire de tête pour des observatoires en Outre-mer.
Justement, Gaël Musquet, vous pouvez nous parler un peu de ces projets. Là, on est déjà ici dans cet observatoire de Vernon. On entend un peu le bruit autour de nous. Je vois quelques instruments. Vous pouvez un peu nous décrire votre matériel?
Alors, on est sur une petite pièce qui fait 4 mètres par 5, 20 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un massif en marbre 2 mètres de côté qui descend dans le sol, à 12 mètres sous l'observatoire, qui permet d'avoir une grande stabilité mécanique. Et sur ce massif en marbre, on a une monture astronomique qui a une charge utile de 25 kg, sur laquelle on a posé un instrument de 15 kg, qui est un télescope de type Newton, de 254 mm de diamètre et 1 mètre de focale. Sur cet instrument, on a des moteurs de mise au point, une lunette de pointage et de quoi poser un spectroscope français. Un Alpi 600, en fait, qui est fabriqué par une société française, qui s'appelle Chéliac, et qui nous permet de faire, en fait, de la spectroscopie, ce que j'ai voulu très tôt donner à cet observatoire aussi, une destination scientifique, et donc pouvoir fournir, au-delà des images pures, fournir aussi des spectres d'étoiles. Donc on va décomposer la lumière de l'étoile en arc-en-ciel, on va faire un spectre. Et en fait, ce spectroscope basse résolution, qui a une résolution 600 traits par millimètre, ben, permet de décomposer la lumière de ces étoiles. La dernière sur laquelle on a travaillé encore avant-hier, c'est une Nova, RS Ofuki. Et on a pu réaliser ce spectre ici, à Vernon, dans l'observatoire. On a ensuite un télescope de 204 mm de type Richet-Chrétien avec 1,60 m de focale, qui permet d'aller en fait observer des objets plus petits. Une lunette de 72 mm avec 472 mm de focale, qui est un instrument portable que j'utilise beaucoup en zone tropicale. Il est posé sur une monture italienne qui est adaptée aux régions tropicales. Et donc cette monture a fait le tour du monde avec moi, elle est partie dans le désert au Sénégal, elle est partie en Guadeloupe. Et donc elle sert pour moi d'outil de référence, elle peut prendre l'avion, elle est très légère. Elle est surtout adaptée aux latitudes, par rapport aux faibles latitudes, latitudes tropicales par rapport aux montures allemandes.
Oui, c'est ça. En préparant cette émission, on nous a parlé de la visée, on se base sur l'étoile polaire pour régler. Vous, le problème, c'est que quand vous êtes en Guadeloupe, l'étoile polaire est beaucoup plus basse. Et l'utilité de cette monture, c'est qu'on peut la régler pour descendre très bas ou monter très haut.
C'est ça. En fait, les Italiens d'Avalon Instruments ont construit cette version de monture pour pouvoir observer vraiment dans les latitudes basses. C'est compliqué, les contrepoids tapent dans les trépieds, ça demande à bricoler ou d'incliner la monture et donc de perdre en stabilité mécanique. Là, on a vraiment un bel objet qui permet, dans les latitudes qui m'ont vu naître, là, à 16 degrés de latitude nord pour la Guadeloupe, 14 degrés de latitude nord pour la Martinique. On est à moins 10, moins 11 pour Mayotte, encore plus bas pour la Réunion, moins 20 pour la Réunion. Donc du coup, on se trouve vraiment grâce au territoire d'outre-mer entre les deux hémisphères. Et cette monture me permet à la fois de voyager, puisqu'elle est légère, et de ne pas avoir la frustration de disposer du matériel qui ne me permette pas d'observer, qui ne me permette pas de travailler. Sur ces cieux australes, le ciel austral est beaucoup moins connu, beaucoup moins observé malheureusement. Et donc on a la chance en France d'avoir toute longitude des territoires ultramarins qui nous permettent d'observer cette partie du ciel.
D'où votre projet, Gaël Musquet, parce que en préparant cette émission, donc vous avez dit, vous avez envie de faire en fait en sorte que on puisse à tout endroit du globe pouvoir observer le ciel.
Tout à fait. J'ai pas forcément les moyens d'avoir de très gros instruments. L'idée, c'est plutôt de faire l'inverse. J'ai une vision un peu de hacker sur cette partie astronomique. C'est de se dire, on va mettre en réseau de petits instruments. On conçoit en ce moment un micro-observatoire ici à Vernon, en bois, qui est plus adapté donc aux zones tropicales, facile à produire, facile à fabriquer, en local. Et qui va permettre en fait de multiplier les positions d'observation et de vraiment profiter des capacités qu'on a. C'est une chance hein, en France d'avoir autant de capacités d'observer et puis de répondre aussi, comme le dit ma compagne, un peu à l'appel de mon démon de midi. J'ai 40 ans et l'astronomie a toujours été ma passion, enfant. C'est vraiment la science dont je suis tombé amoureux très jeune. Et je reviens à mon amour d'enfance. Alors, je suis devenu météorologue parce que je voulais rentrer chez moi, en Guadeloupe. Et au final, l'astronomie, à 40 ans, devient pour moi un peu une manière d'éviter à des jeunes ultramarins les frustrations que j'ai pu avoir enfant. Installer de petits instruments dans ces territoires d'outre-mer, ben, permettre de faire germer une graine qui, je l'espère, deviendra de plus gros observatoires, évidemment. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir de multiplier les capacités d'observation et de permettre à des jeunes Guadeloupéens, de jeunes Mahorais, de jeunes Polynésiens et de jeunes Calédoniens, eh ben, de rester dans leurs îles et de valoriser leur savoir et leurs compétences pour l'observation du ciel, dans leur territoire.
Parce que Gaël Musquet, ici en France, on a bon, l'Observatoire de Paris, on a l'Observatoire de Strasbourg, le Pic du Midi, on n'a pas de grands sites comme ça en Outre-mer.
On n'a pas d'observatoire aussi gros. Alors, à La Réunion, on a un super observatoire, l'observatoire des Macs. Mais c'est vrai que dans d'autres territoires, c'est une science qui est un peu plus confidentielle, beaucoup plus amateur, avec tous les mérites qu'ils ont. Hein. Attention, hein, j'en suis un moi-même. Mais l'idée, c'est aussi. Et on le voit avec toutes les problématiques urbaines aujourd'hui. On a beaucoup de pollution lumineuse. Il y a des combats qui sont menés évidemment pour les économies d'énergie, ce qui est la première raison pour laquelle on veut éteindre les lumières la nuit, mais aussi sur la biodiversité. L'astronomie peut paraître quelque chose de secondaire dans ces histoires-là. Et ce que j'ai envie, c'est aussi sur les territoires ruraux, les territoires insulaires. Ben, mettre cette discipline, la mère de toutes les sciences, comme aime bien le répéter Hubert Reeves, vraiment mettre au centre, en fait, cette science-là qui permet à des jeunes, des moins jeunes et des pas jeunes, de s'adonner, en fait, à une science grâce à laquelle on peut parler de tous les sujets. On peut faire de la chimie, on peut faire de l'optique, on peut faire de la mécanique, on peut faire de l'informatique. Tous les sujets peuvent être abordés et peuvent être des vecteurs d'éducation. On a besoin en ce moment, dans la période troublée que l'on vit en ce moment, en regardant un peu les yeux briller des jeunes enfants qui sont venus ici, de la maternelle à l'université, mes interventions dans les établissements scolaires, on est dépassé par les demandes de visite, des établissements scolaires. Plus de 600 personnes qui ont pu profiter en moins d'un an de cet observatoire, qui a été inauguré le 2 octobre. Mais c'est bien la preuve. Mais qu'on est capable de susciter, même avec de petits instruments, beaucoup ben, d'intérêt, et aussi ben, qu'on peut aussi contribuer à notre humble échelle, à la recherche, avec des astres qui sont particuliers, qui ont des périodes d'activité atypiques. Les étoiles type BE, par exemple, qu'on va étudier aussi ici, dont on va réaliser des spectres de manière régulière. Ben, on a tous un rôle quelque part à jouer, et les territoires insulaires n'ont pas à démériter sur ces sujets-là.
Quelque part, Gaël Musquet, c'est ce qui manque à Vernon, parce que Vernon, c'est quand même la ville de l'espace.
Tout à fait. C'est vraiment un complément et on le voit à la mairie, dans les établissements scolaires. J'ai eu la chance de pouvoir recevoir des élus. À l'inauguration, on avait quand même le président du département, on a eu le maire, on a eu la députée locale. Enfin, on voit que même politiquement, C'est un bel outil en fait pour pouvoir à la fois parler de la ville avec évidemment toutes les entreprises qui font de Vernon une ville spatiale, mais aussi de rendre un peu aux Vernonnais de la visibilité sur ce qui se fait ici. On a une culture du secret dans l'ancien LRBA, parce qu'il fabriquait quand même des technologies nucléaires, des missiles nucléaires, hein, des viseurs d'étoiles pour des missiles. Donc, évidemment, c'était secret. Aujourd'hui, on peut rendre un peu à la société civile, un peu quelque part, un retour de tout ce que les militaires ont pu faire ici, tous ces innovateurs qui permettent et qui me permettent, qui nous permettent d'avoir ces technologies aujourd'hui. Ben, c'est un moyen de leur rendre hommage, ici, dans cette visée stellaire, qu'elles ne meurent pas, qu'elles continuent d'être mises en lumière par les étoiles, mais aussi à la société civile de pouvoir découvrir, redécouvrir. On a eu des randonnées qui sont parties de Vernon. En bord de Seine avec une association de Caen, le Die de l'eau, qui a permis à des dizaines de Vernonnais ben, de découvrir à la fois leur ville en bord de Seine et de terminer la randonnée ici à l'observatoire, d'observer la Voie lactée, d'observer des étoiles sur le thème du bleu. Et ça a été impressionnant aussi de voir à l'issue de cette randonnée des commerçants de Vernon vouloir faire des randonnées astronomiques et gastronomiques.
Gaël Musquet, on a planté le décor. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une respiration musicale, et puis on va ensuite découvrir plus en détail ces installations que vous avez ici sur Vernon. À tout de suite. Vous êtes sur IDFM Radio et c'est l'émission Entre Chiens Loups, rubrique À toi les étoiles. Notez bien le nouvel horaire, 18h-19h et toujours les troisièmes mardis de chaque mois avec Franck à l'animation de cette émission. Je suis à Vernon, sur le site de l'ancien LRBA, en compagnie de Gaël Musquet, qui est hacker éthique, météorologue et passionné d'astronomie et qui nous fait découvrir l'observatoire de Vernon. Gaël Musquet, ce que l'on entend là, c'est votre télescope qui est en train de pointer une étoile. Parlez-nous des instruments que vous avez ici.
On a une monture en fait qui a une charge utile de 25 kg, donc qui motorise un télescope de type Newton sur lequel on a un train optique qui supporte un spectroscope Alpi 600. L'objectif, c'est pour moi d'appliquer à l'astronomie tout ce que j'ai appris à faire en matière de hacking. Et donc, on utilise dans cet observatoire que des logiciels libres. L'objectif, c'est d'utiliser tous les travaux de développeurs, de chercheurs, de hackers, de techniciens et de l'appliquer à l'astronomie. Donc, l'ordinateur ici fonctionne sous GNU Linux. Sur la distribution Ubuntu, qui lui-même utilise une bibliothèque d'abstraction, donc en fait qui va permettre de piloter tous les instruments, qui s'appelle INDI, INDI, et en fait cette bibliothèque, elle va permettre de piloter la monture, les caméras, le régulateur de tension, les moteurs de mise au point, le spectroscope, le calcul astrométrique. C'est vraiment un couteau suisse de l'astronomie libre. Et au-dessus de cette bibliothèque, on peut venir piloter tous ces instruments par tout un tas de logiciels, puisque INDI s'est chargé de la partie la plus compliquée, hein, du dialogue entre l'ordinateur et le matériel. Et donc, ici à Vernon, on utilise un logiciel qui s'appelle CASTARS et un autre logiciel qui s'appelle Au-delà, qui est développé par des Français. Alors, CASTARS, qui est vraiment une communauté internationale, Au-delà aussi, mais on a quand même une grosse communauté française sur ce logiciel-là. CASTARS va à la fois assurer le côté cartographie du ciel, donc on a une carte du ciel. Avec ECOS, qui est un module de pilotage des instruments, on va vraiment avoir tout le suivi, humidité, température, ouverture du dôme, enfin voilà, tout ce qui permet de piloter les instruments mécaniques. Faire les calculs astrométriques, donc une fois qu'on a pointé avec la monture l'objet qu'on veut observer, bien vérifier avec la lunette de guidage et de pointage qu'on est bien dans la zone du ciel qui nous intéresse. Et ensuite, avec la caméra, cette fois-ci de guidage, qui est sur le spectroscope, s'assurer que la lumière de l'étoile va passer dans une toute petite fente qui fait 23 microns du spectroscope et bien se garantir que tout au long de l'observation, cette étoile ne va pas bouger malgré le mouvement stellaire, malgré les imperfections de la monture, malgré le vent, de la fente de 23 microns. Et une fois que cette étoile est bien positionnée dans la fente et que le pointage et le guidage se font de manière lisse et de très bonne qualité, on va déclencher la caméra principale qui va permettre d'observer cet arc-en-ciel, hein, de l'objet, ce spectre de l'étoile que l'on veut observer, de l'objet qu'on veut observer, pour pouvoir ensuite analyser le spectre et avec Au-delà et Spectre Audace, avoir au final un beau spectre d'étoiles qui va être ensuite envoyé dans des bases de données d'astrophysique et de laboratoires astronomiques.
Vous parlez de caméras, donc il est équipé de nombreuses caméras. Il n'y a pas de vision directe, c'est-à-dire on ne met pas l'œil à un oculaire comme on fait dans un télescope classique.
Alors non, ici on n'observe pas l'œil nu, même si j'aime beaucoup hein, regarder la voûte céleste et que l'observation visuelle c'est toujours un plaisir. Mais sur ces instruments, effectivement, on n'a que des caméras, pas d'observation visuelle. Faut bien imaginer qu'on a des robots, en fait. Hein. L'observatoire est entièrement automatisé. Ce sont des robots qui, à distance, vont permettre d'observer les objets qui nous intéressent. Et ça, quand on veut avoir la paix dans son couple, hein, en ce moment, c'est très intéressant de pouvoir faire ça à distance. Ma femme est extrêmement contente depuis que je fais ces observations à distance, que je peux être à la maison pendant que les machines travaillent. C'est une des grandes avancées, si je peux dire, hein, de l'astronomie que l'informatique a pu amener. Ça ne gâche pas le plaisir, hein, évidemment, de l'observation visuelle, mais c'est vrai que quand l'objectif, c'est aussi de produire énormément d'images et que ces travaux sont rébarbatifs et séquentiels, vaut mieux laisser ça au robot et passer, par exemple, pendant ce temps-là, du temps avec sa famille.
Donc, de chez vous, vous arrivez à ouvrir le dôme et contrôler donc, le télescope.
Alors, sur les petits observatoires, ça sera le cas. Et en fait, ici, l'observation se fait, l'ouverture pardon, du toit, ici, se fait encore manuellement. Alors, on a un moteur, hein. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sécurité, l'observatoire s'ouvre encore de manière manuelle, mais il sera automatisé. Donc ce que je fais sur une séquence d'observation, c'est que je mets l'observatoire en température. Donc on ouvre manuellement, en appuyant sur un bouton, le toit. Donc là, c'est ce moteur en fait, d'ouverture qui s'occupe de l'ouverture. On laisse l'observatoire ouvert pendant une heure à peu près, le temps que les instruments soient à température ambiante. Et à ce moment-là, ben, je repars chez moi. Je peux déclencher, après avoir évidemment collimaté le télescope, bien vérifier les mises en station, enlever les caches poussières, vérifier que le spectroscope et que tout fonctionne bien, ben je peux de chez moi ensuite déclencher les observations, revenir en fin de nuit, fermer l'observatoire, remettre tous les capots pour éviter les poussières, et déclencher le déshydrateur d'air et le filtre à air, pour sécher l'observatoire, hein, parce qu'on a évidemment de la buée, du givre qui se forme sur les instruments. Et ce déshydrateur d'air va permettre en fait, d'assécher rapidement l'observatoire. Et puisqu'on est en Normandie, de maintenir tout au long de l'hiver la position de hors-gel, hein, de l'observatoire, éviter que les instruments s'abîment à cause de la poussière ou de l'humidité.
Gaël Musquier, vous disiez que vous travaillez avec d'autres observatoires. Alors, est-ce qu'on peut passer, par exemple, est-ce qu'il est arrivé que des observatoires vous passent commande ? Et on aimerait avoir des observations, un travail sur telle étoile.
Alors, j'ai des demandes qui viennent d'entreprises privées. J'ai eu des demandes qui viennent aussi d'acteurs spécialisés, de l'armée aussi, puisqu'on n'observe pas que les étoiles ici, on observe des satellites. On observe aussi des avions. Donc, on a des demandes qui peuvent arriver, en fait, hein, de différentes entités. Pour la partie laboratoire, en gros, il y a des bases de données en fait, qui sont ouvertes. Donc la AVSO, qui est une grande association qui étudie les étoiles variables. Donc on peut participer à des programmes hein, de sciences participatives. Donc on peut envoyer nos images directement dans ces bases, hein, à la AVSO. On a aussi la base BESS, à laquelle on va contribuer très prochainement pour les étoiles BE, donc qui sont des étoiles de type B, mais qui ont des raies en émission. Qui sont des étoiles très particulières. Donc, on a plus de 2000 étoiles de ce type-là. Donc, le LESIA, en fait, hein, qui est le laboratoire qui héberge cette base BESS, fait appel à des contributions aussi amateurs pour pouvoir contribuer à cette base. Donc ça fait partie des travaux qu'on va mener très très vite avec Thomas Nicolazzo ici, pouvoir contribuer à ces travaux-là. Et sur le dernier événement en date, la Nova RSO Fuki qui a explosé donc, le 9 août, on va pouvoir aussi envoyer les images qui ont été prises ici le 14 août, le 7 septembre et le 8 septembre à la AVSO notamment pour envoyer donc évidemment la magnitude visuelle de cette nova et les spectres aussi qui ont été réalisés ici.
Le mois dernier et puis au mois de juillet, j'étais au radiotélescope de Nancy. Vous faites de la radioastronomie ici aussi, Galé Musquet ?
Alors, je suis radioamateur. Et donc, dans la prairie, à 100 mètres d'ici, on aura à la fin de l'hiver un radiotélescope de 5 mètres sur lequel on va étudier en fait le pulsar de la girafe, donc un des pulsars en fait de la constellation de la girafe, qui est circumpolaire ici à Vernon. Et donc l'idée c'est encore une fois d'arriver à jumeler à la fois ce que j'ai pu faire en matière de hacking, en matière de radio, radio amateur, et aussi astronomique, puisque cette antenne va à la fois servir pour des activités radio amateurs, mais aussi astronomiques dans l'observation de ce pulsar, notamment avec tous les développements qui ont été faits récemment en matière de radio logiciel. Donc derrière cette antenne, on aura toute une chaîne en fait de traitement logiciel radio qui permettra en fait d'étudier ce pulsar sur la bande VHF autour de 400, la bande UHF pardon, autour de 400 MHz.
Tout un programme, Gaël Musquet. Je vous propose que l'on se rende tout de suite dans cette prairie. On y va. La magie de la radio, on s'est téléporté rapidement sur le site dont vous parliez il y a un instant. Donc c'est ici que va être installé le radiotélescope.
Tout à fait. Ça va être une antenne parabolique de 5 mètres qui sera installée d'ici l'hiver et qui aura pour mission première, dans un premier temps, d'observer un pulsar. Donc le PSR J0332 plus 5434, qui est le pulsar le plus puissant de l'hémisphère nord, qui a un flux à peu près de 1500 millijinsky, donc qui est un pulsar puissant, entre guillemets, c'est très faible, mais ça reste puissant pour un pulsar, en tout cas, de ce côté de l'hémisphère, de la Terre, en tout cas, dans l'hémisphère nord. Et l'objectif, ça va être un peu de rivaliser et d'arriver aux mêmes conclusions, en tout cas, avoir les mêmes travaux que les Polonais qui utilisent ce pulsar comme heure légale pour leur Assemblée nationale, par exemple. Donc, ils ont posé sur la cathédrale Sainte-Catherine, en fait, 16 antennes qui observent en permanence ce pulsar. Donc nous, on va être un peu moins ambitieux avec une seule antenne de 5 mètres, mais qu'il va falloir motoriser, guider, piloter, et qui va observer d'ici, depuis cette prairie d'environ un hectare, ce pulsar quotidiennement.
Et vous allez avoir des relations avec le radiotélescope de Nancy ou non, c'est un travail indépendant ?
Alors c'est un travail indépendant. L'objectif pour moi, c'est vraiment d'arriver à prouver qu'il y a un intérêt sur le site, de le susciter, de prouver que certaines choses sont possibles avec peu de matériel ou du matériel qu'on trouve sur étagère, et que ces travaux ne soient pas concurrentiels mais vraiment complémentaires de ces grands observatoires qui ont des travaux et qui sont parfois réservés sur plusieurs mois voire plusieurs années par des équipes de recherche. Eh bien, l'idée c'est d'offrir une capacité d'observation certes moins puissante mais complémentaire et plus facilement mobilisable. Évidemment, si c'est viable, qu'on a des bons résultats scientifiques, des bons retours techniques, et bien évidemment, ouvrir ces travaux à des équipes de recherche, à des laboratoires, à d'autres observatoires. Mais j'ai vraiment envie de prouver qu'on en est capable. On s'inspire massivement de ces observatoires. C'est l'objectif, c'est de tendre vers eux, évidemment. Même si on n'a pas les mêmes moyens, mais qu'on puisse ici à Vernon, à moins d'une heure de Paris, pouvoir faire tous ces travaux. Alors là, on va l'installer donc ici à Vernon, et comme je l'ai dit sur la partie optique, une fois que ces travaux seront bien prototypés sur Vernon, eh bien, l'objectif c'est d'étendre sur les territoires ultramarins, notamment dans l'hémisphère sud, où on a un pulsar encore plus puissant, donc dans la constellation Vela. On a le pulsar Vela qui est encore plus puissant et qui peut être observé de la Réunion, de Mayotte et de la Polynésie. Et qu'on s'affranchisse un peu hein, des mouvements diurnes, nocturnes, et que toutes ces positions des territoires ultramarins français puissent servir à la recherche, à l'avancée de la science, et qu'on puisse en réseau, vraiment avec cette vision de hacking, avec du matériel sur étagère, même pouvoir s'affranchir en fait de quelque part de cette rotation de la Terre, de ces alternances diurnes nocturnes, et qu'on puisse observer en permanence, ça c'est vraiment mon rêve, qu'en permanence, à la fois sur la partie radio-astronomique et la partie évidemment optique, arriver à observer le ciel.
Gaël Musquet est mon invité. On va marquer une seconde pause. Pendant ce temps, on va se rendre dans un autre lieu qui m'intrigue beaucoup, car il s'agit d'un bâtiment où il y a une énorme coupole. Restez avec nous, on revient tout de suite sur IDFM Radio.
Malgré le temps qui...
Vous écoutez IDFM Radio et c'est l'émission À toi les étoiles tous les troisièmes mardis de chaque mois dans un nouvel horaire désormais 18h-19h. Gaël Musquet me reçoit aujourd'hui sur le site de l'ancien LRBA de Vernon. Il est hacker éthique, météorologue et passionné d'astronomie. Pendant la pause musicale, on s'est déplacé sur un autre site, donc on a une grande coupole, il y avait ici un télescope.
Alors il y avait une belle lunette qui servait à l'époque à calibrer les viseurs d'étoiles des missiles nucléaires en fait français. Et cette salle-là, elle est impressionnante parce que tout y était contrôlé, la température, l'humidité. Alors cet observatoire, il a une particularité en plus, c'est que le dôme ne s'ouvrait pas. On avait une glace vraiment de très grande qualité qui permettait en fait de laisser l'observatoire fermé. Donc on ouvrait juste cette lunette, cette fenêtre en fait, pour laisser passer la lumière et bien maîtriser en fait toutes les conditions atmosphériques des instruments qui étaient testés ici. Le nom de ce bâtiment, c'est M51, du nom de notre missile nucléaire le plus puissant, normalement. Et donc, du coup, c'est un peu particulier pour moi d'être ici, parce qu'on est en fait vraiment dans le berceau de la dissuasion nucléaire et de la propulsion et des missiles. Et en même temps, ce bâtiment est vide. On a un foncier qui est juste magnifique. Et donc, mon rêve aujourd'hui, c'est, après avoir rénové la visée stellaire, de réinvestir ce lieu avec une coupole quand même qui fait près de 8 mètres de diamètre et qui permettra d'héberger un plus grand instrument et d'aussi travailler sur toute la pédagogie autour de la protection du ciel nocturne. Chaque observatoire qui ouvre pour moi est un pion avancé sur la protection du ciel nocturne et sur la prise de conscience de la part des politiques, mais aussi de la population, hein, de la société civile, de la nécessité de préserver la qualité du ciel, à la fois par rapport à la pollution en elle-même, mais aussi à la pollution lumineuse, qui perturbe beaucoup nos activités astronomiques.
Et puis même pour la faune aussi, hein, ça a des impacts.
Tout à fait. On voit souvent les économies d'énergie que l'on ferait à éteindre les lampadaires, mais ça perturbe effectivement aussi les insectes. On a des études aussi très longues qui montrent à quel point ça modifie et ça perturbe les cycles circadiens et favorise en fait des maladies, hein, même chez l'homme. Donc en fait ici, à Vernon, cet observatoire pour moi, il permet de vraiment travailler sur ces sujets, de montrer qu'il y a aussi un intérêt économique à faire de l'astronomie, à faire de l'astrophysique, et de refaire revivre aussi surtout un haut lieu de l'astronomie et de l'astrophysique militaire.
Gaël Musquet, quand je regarde cette coupole, c'est curieux son système d'ouverture.
Oui, en fait, on avait une glace qui avait deux faces très 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 parallèles, très très précises, et à travers laquelle les instruments observaient. Dans un observatoire traditionnel, on observe directement à l'air libre. Ici, la coupole restait fermée. On avait juste cette vitre, en fait, cette fenêtre qui s'ouvrait et qui permettait en fait de laisser rentrer la lumière des étoiles à travers cette vitre de protection de très 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 grande qualité. Donc l'objectif à terme, c'est d'avoir une vue directe aux étoiles, qu'on voit directement le ciel et qu'on puisse observer à travers des instruments de plus grande taille dans quelques années ici, après avoir réhabilité ce bâtiment.
Ce qui m'étonne, c'est comment ne pas avoir d'humidité sur cette vitre, justement.
Mais en fait, on a tout en dessous, sous nos pieds, on a toute une machinerie en fait de contrôle de l'atmosphère. Et donc, les militaires en fait chauffaient ou refroidissaient en fait cette salle en fonction des besoins de l'instrument. Et comme dans la visée stellaire, de manière beaucoup plus modeste, on a en fait des résistances chauffantes, on a tout un système de conditionnement de l'air et de travaux en fait sur les surfaces pour éviter évidemment la condensation, éviter la buée, le givre, et permettre aux instruments de continuer à voir, quelles que soient les conditions atmosphériques que l'on puisse avoir en extérieur. On a un gros chantier devant nous, hein. Là, c'est plusieurs centaines de mètres carrés, hein. On est passé de la visée stellaire de 20 mètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés ici, dans cette partie. Comme je disais, je rêve, mais c'est aussi comme ça que j'ai rénové cette visée stellaire avec les partenaires qui m'accompagnent. Mais je rêve de voir et d'entendre bientôt, je l'espère, des scientifiques, des techniciens, des chercheurs ici. Qui viendront à moins d'une heure de Paris travailler avec nous.
C'est tout le mal que l'on vous souhaite, Gaël Musquet. On en a fini avec cette coupole. On va se rendre maintenant sur un autre site. On poursuit notre visite, Gaël Musquet, et on est grimpé sur un toit. On va peut-être parler un petit peu de polémique parce qu'on va parler de Starlink.
Oui, tout à fait. Ici, on fait un peu de contrôle qualité de la constellation Starlink pour une autre activité qui est plus de gestion de crise. Et c'est vrai qu'en matière de pollution lumineuse, on a effectivement cette polémique, hein, sur l'accès au ciel et la protection du ciel nocturne. Sur les deux activités que l'on a ici, on a toute une activité observation du ciel. Donc, on a des stations météo, on a de la supervision aérienne. Et donc, c'était important qu'on ait un retour de ce que permet en fait cette technologie et quelles sont ses limites. Donc, c'est très important pour nous, au-delà de la polémique, de coller aussi à la réalité de ce qu'est aujourd'hui le spatial, et d'être capable d'émettre évidemment des recommandations, à la fois dans les usages, mais aussi dans la protection en fait du ciel nocturne sur le volet astronomique, mais en aucun cas faire comme si ça n'existait pas. Et donc cette station Starlink ici, elle a toute sa place sur la partie spatiale. On sait maintenant vers quoi on doit tendre ou pas en matière d'accès à Internet, en matière de lancement, en matière aussi de conquête spatiale. C'est aussi un des rôles qu'on se donne ici.
Donc là, nous sommes sur le toit. On a devant nous une antenne qui est dirigée donc vers le ciel avec un camouflage militaire.
Oui, tout à fait. En gros, c'est l'intérêt pour nous, comme je suis aussi implanté sur la base aérienne 105 à Évreux, tous ces moyens de communication ont un impact évidemment sur la sécurité. Quand on écoute en radio les transpondeurs des avions, des bateaux, quand on écoute certains satellites, on assure évidemment une partie de la souveraineté du ciel. Qu'on soit capable, nous, Français, de savoir ce qui se passe dans notre espace aérien et évidemment au-dessus de nos têtes, est primordial. La France est l'un des rares pays à s'être doté d'un radar spatial, le radar Grav. Très peu de pays au monde ont ces capacités d'observation spatiale. Et donc, à notre humble échelle, que ce soit au niveau optique ou au niveau radio, je tiens vraiment à être en phase avec l'actualité, la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'activité spatiale et l'activité aérienne ou aéronautique.
Quels signaux reçoit cette antenne au juste?
Alors là, on a 1700 satellites en fait qui ont été lancés par SpaceX. Ces satellites sont sur différents plans orbitaux en orbite basse, ce qui permet en fait de recevoir sur des fréquences assez élevées quand même, hein, des signaux en fait de ces satellites qui sont reliés à des stations sol, des stations de contrôle en fait, hein, qui sont à maximum à 800 km de cette station. et qui, avec l'adresse déclarée donc ici au campus de l'espace, permettent d'installer ce kit de réception, on va dire, jusqu'à 25 km. Donc là, on fait des tests. Ce kit est déplacé sur des villes, des villages en Normandie qui sont à 25 km maximum en fait de Vernon, donc Ivry-la-Bataille, Évreux, Gisors, Magny-en-Vexin, tous ces territoires à 25 km de Vernon, en théorie, et pour l'instant ça fonctionne, permettent de recevoir les signaux de ces satellites et d'avoir accès à Internet en très haut débit. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, on atteint des débits maximum de 200 Mbps en descente et de 25 Mbps en montée. Ce qui veut dire que sur l'objectif principal du produit Starlink, on est capable aujourd'hui en Normandie et autour de Vernon d'avoir du très haut débit par satellite avec une très faible latence. On est à quelques dizaines de millisecondes de latence au niveau de la connexion. Donc ça répond évidemment aux problématiques des collectivités qui n'arrivent pas à fournir un accès très haut débit, mais ça pose aussi la question des ambitions en matière de déploiement de l'Internet très haut débit. Tant qu'on n'aura pas, on ne sera pas à la hauteur des ambitions européennes et nationales en matière de fibre optique, eh bien, ce type d'accès Internet va continuer à se démocratiser parce que les populations, et on l'a bien vu pendant le Covid, auront besoin d'un accès Internet très haut débit pour télétravailler ou juste avoir accès à Internet tout simplement. Le succès Starlink, c'est surtout ça. C'est surtout le fait de ne pas avoir d'accès fibre, très haut débit donc, à un coût intéressant en zone rurale ou en zone périurbaine.
Et quelle réponse vous pourriez donner aux personnes qui disent que les satellites provoquent de la pollution ?
Alors effectivement, on les voit, et pas que ceux de Starlink d'ailleurs. Évidemment, on a de la pollution lumineuse. Évidemment, c'est un problème. Et évidemment, si ça peut paraître contradictoire ce que je vais dire, mais le meilleur moyen, à mon avis, commercialement, de concurrencer SpaceX, c'est de déployer massivement la fibre et qu'on ait accès à cet Internet et à ces services numériques qui sont aujourd'hui vitaux. On ne parle pas juste de divertissement, là. On parle d'un accès Internet et aujourd'hui, grâce auquel, évidemment, on a accès à son administration, grâce auquel, aujourd'hui, on a des appels d'urgence, grâce auquel, demain, l'année prochaine, on a un système d'alerte des populations qui se met en œuvre en Europe. C'est aussi, aujourd'hui, ces réseaux de télécommunications deviennent vitaux avec les enjeux du réchauffement climatique. Il va falloir qu'on soit aussi ambitieux sur Terre que dans l'espace. Mon vœu pieux, évidemment, c'est que ces satellites s'améliorent et qu'ils soient moins visibles. C'est un vœu pieux. Et quand on prolonge ce vœu-là, évidemment, c'est qu'on est dans des conditions acceptables, responsables écologiquement, économiquement, financièrement, un accès à Internet terrestre, fibré ou très haut débit pour tout un chacun.
Gaël Musquet, on va redescendre sur le plancher des vaches. Pendant ce temps, encore un peu de musique et on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de cette émission. A tout de suite. Et là, il s'agit de ne pas tomber. Hop là. Ça donne envie d'écouter, de se mettre. Cette idée FM Radio que vous écoutez, et vous avez bien raison, tous les troisièmes mardis du mois, nous parlons d'astronomie et ou d'astronautique grâce à cette émission À toi les étoiles. Notez bien le nouvel horaire, 18h, 19h. Je suis toujours en compagnie de Gaël Musquet, hacker éthique, météorologue et passionné d'astronomie. Il nous fait découvrir son projet ambitieux sur l'ancien site du LRBA de Vernon. Gaël Musquet, on s'est rendu sur un autre lieu. On est où là exactement ?
Alors, on est dans une deuxième prairie où on va installer en fait des antennes décamétriques, donc qui permettent de recevoir et d'émettre des signaux sur des fréquences très basses. On commence à 1 MHz 8. Donc la bande dite des 160 mètres, et évidemment ensuite on évoluera sur d'autres bandes plus simples entre guillemets, sur des antennes plus modestes, mais ici on va avoir une antenne qui va faire à peu près 40 mètres de long et qui va permettre, c'est une antenne filaire hein, donc assez simple à monter, et cette prairie là elle est particulière, elle est intéressante parce qu'on a trois chaînes en alignement qui vont supporter les antennes. Donc là, on récupère un peu l'esprit du LRBA du début. Les anciens me disaient, tu sais Gaël, on utilisait beaucoup de bois, on bidouillait beaucoup. Ils étaient déjà hackers à l'époque, on n'utilisait peut-être pas le mot, mais c'était déjà des hackers pour les souffleries, pour tous les instruments qui ont été installés ici ont été au début bidouillés. Et ici, c'est très intéressant parce que ces chaînes, en fait, on va pouvoir les équiper en antenne en s'inspirant des méthodes d'élagage et de grimpeurs en fait, canadiens et américains, où on va en fait installer des fausses fourches qui sont des espèces de petits lassos de lanières en fait, qui permettent en fait d'installer ou de supporter des cordes sans scier la branche en fait, avec les phénomènes d'abrasion et donc de respecter l'arbre et d'éviter de l'abîmer et évidemment d'abîmer le matériel aussi forcément. Et donc du coup on va tirer au lance-pierre en fait ces fausses fourches pour les monter et tirer avec des cordes ces deux grands brins d'antenne pour la plus grande entre ces arbres qui sont distants d'une cinquantaine de mètres pour les plus éloignés et de 30 mètres pour l'arbre le plus proche du milieu. Et donc du coup on va réussir avec là encore des moyens modestes sur étagère de battre les records que j'ai déjà ici hein, sur de la propagation ionosphérique, donc faire rebondir des ondes en moyenne fréquence ou en haute fréquence depuis Vernon. Le record sur des modes de transmission numérique ici c'est 25 000 km avec à peine 5 watts puisque les signaux ont été reçus en Tasmanie il y a quelques années et au lieu d'avoir une activité radio sur ces calculs de propagation de manière sporadique, eh bien on va avoir en permanence à la fois une phase d'émission, donc de manière cyclique, hein, tout au long de la journée. 10 minutes par heure, on va émettre. Et les 50 minutes restantes, on va écouter. Et donc, avec ces échanges qui vont être faits avec différents radioamateurs qui sont répartis sur l'ensemble de la planète, même sur la station au pôle sud de Concordia, on sera en capacité à la fois d'émettre des signaux à destination de ces radioamateurs, mais aussi de recevoir ces signaux expérimentaux qui sont parfois utilisés par des astrophysiciens et par des physiciens en fait, du projet AARP, par exemple, et de pouvoir recevoir ces signaux radioélectriques à Vernon et de faire des confirmations et des bilans de liaison ici à Vernon.
Qui ont quand même quelque chose à voir avec l'astronomie et l'astronautique.
Bien sûr, parce qu'en fait, ces mesures, elles permettent de valider ou de confirmer ou d'infirmer hein, la propagation des ondes radioélectriques. Donc le fait d'avoir plusieurs antennes ou des antennes multibandes, ça permet de vérifier qu'en fonction des fréquences, eh bien, on va pouvoir faire rebondir ces ondes sur la ionosphère. On le sait, hein, le Soleil a une activité très importante sur l'atmosphère terrestre, surtout sur la magnétosphère et la ionosphère. Et donc, ces couches de l'atmosphère vont s'activer et vont faire un peu un rôle de miroir à certains moments de la journée ou à certains moments de l'année, au moment des éruptions solaires. On est en train de remonter sur le futur pic solaire qui va culminer dans à peu près 5-6 ans. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir quelle va être l'influence de cette activité solaire sur l'atmosphère terrestre et donc la propagation des ondes radioélectriques qui peuvent d'ailleurs, hein, ces éruptions solaires, perturber fortement l'activité spatiale sur ces vents de particules qui peuvent endommager et perturber les communications que l'on a avec nos satellites.
Yann Musquet, vous avez évoqué plusieurs fois le fait que vous étiez hacker. Quand on parle d'hacker, on parle plutôt de personnes qui ont de mauvaises intentions. Vous, c'est pas du tout le cas.
Tout à fait. En gros, les métiers de la cybersécurité aujourd'hui, c'est à peu près 35 métiers. Le hacking en fait partie. Ce sont des millions de postes à pourvoir aujourd'hui dans le monde. J'aime bien les deux définitions du hacking. Celle de Kiren et Lazari qui dit que nous sommes, nous, hackers éthiques, le système immunitaire de l'Internet. Et donc par extension des villes, puisque aujourd'hui tout est connecté, nos vies dépendent énormément du numérique. Donc notre premier rôle évidemment c'est de sécuriser ces infrastructures, de ne pas leur faire confiance. Ce qui m'amène à la deuxième définition du Chaos Computer Club à Berlin, qui définit donc, le plus gros club de hackers européens, qui définit le hacker comme celui qui doute. Nous, on doute quand on a un système informatique, quand on a une machine à laver connectée, quand on a un ordinateur dans les mains, on ne fait pas confiance. Et donc, comme on ne fait pas confiance, on va essayer de détourner en fait, ce système pour comprendre comment il fonctionne dans un premier temps, mais ensuite de le détourner de son usage premier et peut-être d'y rajouter des nouvelles fonctionnalités et surtout de le sécuriser. Ça a des conséquences évidemment en termes de sécurité des biens et des personnes, puisque notre rôle à nous, c'est d'anticiper les vulnérabilités et de les publier pour qu'elles soient évidemment corrigées. Et notre deuxième rôle, c'est celui de l'innovation, puisque c'est un peu ce qui se passe à l'Observatoire de Vernon. Des appareils, des ordinateurs, des ordinateurs de poche comme des Raspberry Pi par exemple, ou des systèmes radioamateurs qui n'avaient pas vocation à être utilisés dans des observatoires, aujourd'hui font fonctionner intégralement tous les capteurs, on a une quinzaine quand même ici, de l'observatoire, de la mesure de la pollution lumineuse au spectroscope en passant par le radiotélescope. Tous ces appareils sont équipés de logiciels libres et de bouts de code informatique qui ont été développés par des hackers, des techniciens, des développeurs, des passionnés que je rejoins évidemment volontiers dans cet observatoire.
Yann Musquet, on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles. Je voudrais vous remercier beaucoup de m'avoir accueilli ici. Quelques mots pour conclure.
Clear skies, comme on dit en astronomie en anglais. 73, comme on dit quand on est radio amateur. Donc j'espère que ces quelques minutes d'émission auront fait rêver et permettront de faire découvrir cette belle ville qui m'a accueilli ici à Vernon. Et qu'on pourra relever évidemment tous les défis prochainement, à la fois dans la transmission, parce que c'est important pour moi de transmettre en fait aujourd'hui, de faire rêver ces jeunes. On vit une période un peu compliquée avec cette épidémie et on s'est rendu compte qu'on n'a jamais eu autant d'activités astronomiques. Donc voilà, mon vœu, c'est que on ait autour de cet observatoire de Vernon d'autres observatoires qui se créent, d'autres amateurs qui nous rejoignent et qui commencent à observer. Malgré les contraintes que l'on va avoir, la pollution lumineuse, l'urbanisation massive, le réchauffement climatique, toutes ces nouvelles contraintes, et qu'on puisse relever tous ces défis ensemble.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette diversité de choses que vous faites ici et ce qui m'a inspiré à venir faire cette émission. Et je vous propose, comme j'ai déjà fait deux émissions au Radiotélescope de Nancy, on va laisser l'Observatoire de Vernon se développer et puis peut-être que d'ici 4 ou 5 ans, on reviendra de nouveau faire une émission pour nous présenter de nouvelles installations.
Avec plaisir, à très bientôt.
Merci Gaël Musquet, à très bientôt, au revoir. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles, ici sur l'ex-site du LRBA de Vernon, renommé le Campus de l'Espace. Dans un instant, vous allez retrouver Olia avec son émission Happy Hour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mardi 19 octobre. N'oubliez pas le nouvel horaire, 18h, 19h. Et ce sera la rentrée d'À toi les étoiles avec le retour en studio. Et oui, on fait toujours après tout le monde. Soyez au rendez-vous, bonne soirée à l'écoute de nos programmes et à très bientôt. Merci pour votre fidélité.